Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ce signe de la croix que nous venons de faire tous ensemble devrait largement suffire pour toute notre prédication ce jour-ci. En fait, ce premier dimanche de la Passion, l'Église nous fait méditer la croix, mais d'une manière tout à fait particulière. Elle fait voiler matériellement avec un tissu violet, ce qui devrait être l'objet même de notre méditation. Pourquoi cela? L'une des raisons de cette coutume est de nous souvenir de la croix, puisque nous la regardons si souvent avec une incroyable indifférence, comme s'il s'agissait d'une chose la plus ordinaire du monde. On couvre la croix, on se sert de ce contraste entre la croix dévoilée et la croix voilée pour s'en souvenir, enfin pour la planter comme un étendard au fond de notre cœur, mais surtout pour la bien manifester, cette bannière, à l'extérieur, et comment? Par un signe de la croix. Justement, ce dernier point remplira notre quart d'heure. Nous verrons donc comment faire le signe de la croix, quand faire le signe de la croix, enfin, pourquoi le faire, quelle est son utilité. Donc, comment, quand et pourquoi faire le signe de la croix. D'abord, comment? Ce point pourrait paraître superflu, car nous tous, nous le savons faire, nous venons de le faire. C'est ce que les tout petits enfants apprennent au premier cours du catéchisme, s'ils ne l'ont pas déjà appris à la maison. La question est plutôt, comment le bien faire? Souvenons-nous qu'un bon signe de la croix est toute une prédication en condensé, qui contient et qui en même temps nous fait professer extérieurement les principaux mystères de la foi chrétienne. Qui sont-ils? Il y en a deux. Le premier est celui d'un seul Dieu en trois personnes. C'est ce qu'on fait par les paroles au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Trois personnes, un seul Dieu. Le deuxième mystère est celui de notre rédemption par la mort du Fils de Dieu, accomplie sur le bois de la croix, ce qui exprime la figure de la croix tracée par la main. C'est donc le signe le plus simple, le plus parlant, par lequel nous montrons notre foi que nous sommes chrétiens. Cela seul nous suffirait pour le bien faire, et le faire sans précipitation, comme si nous voulions nous débarrasser des manches importunes, mais aussi sans affectation, pour se faire trop remarquer. Il faut garder tout simplement un juste milieu. Un petit détail pourrait nous aider à y penser. C'est la manière de tenir les doigts en faisant le signe de la croix. Autrefois, on élevait les trois premiers doigts, comme on fait maintenant, en tenant les deux autres pliés. Sans souvenir de la Sainte Trinité, trois doigts, et les deux natures de notre Seigneur, les autres doigts pliés. Coutume conservée dans notre ordre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le signe de la croix se fait à cinq doigts. Et saint François de Sales y voit le souvenir des cinq plaies de notre Seigneur. Voyons maintenant quand. Quand fait-on le signe de la croix? La réponse est le plus souvent possible. Mais le catéchisme en précise surtout les quatre cas. Avant et après tout acte de religion, avant et après les repas, avant et après le sommeil, enfin, quatrième cas, dans les dangers de l'âme et du corps. Développons seulement les deux premiers, actes de religion et repas. Nous devons commencer et finir toute prière avec le signe de la croix. Prenons la prière par excellence, la Sainte Messe, celle qui renouvelle sur l'autel tous les mystères de la croix. Le prêtre la commence et la finit par ce signe, et il en fait en tout une cinquantaine. Quant au repas, un chrétien digne de ce nom doit les précéder et les suivre par ce signe. Vous objecterez peut-être que parfois ce n'est pas facile. On ne veut pas se singulariser en faisant autrement que les autres. Personne n'aime ni se faire remarquer, ni se faire moquer de soi. Réponse. On peut très bien se singulariser, cela veut dire ne pas faire comme tout le monde, sans être ridicule. Et quelquefois même, on est obligé de le faire, sous peine d'être coupable. Comme par exemple, dans un pays de voleurs, l'honnête homme doit respecter la propriété d'autrui. Voyons comment les soldats chrétiens observaient la bénédiction de la table dans leur vie des camps. Julien Apostat, empereur romain, 4e siècle, neveu de Constantin. Julien Apostat gratifie ses troupes d'une distribution extraordinaire d'argent. Près de l'empereur est une cassolette allumée. Chaque soldat y laisse tomber quelques grains d'encens. Les soldats chrétiens le font comme les autres, sans soupçonner rien que ce soit. La distribution terminée, on fait la fête. Au commencement du repas, la coupe est présentée à un soldat chrétien. Et que fait-il alors? Suivant l'usage, il la bénit par le signe de la croix. Alors une voix s'élève. Ce que tu fais est en contradiction avec ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? As-tu donc oublié l'encens et la cassolette? Ne sais-tu pas que tu as fait un acte d'idolâtrie et renié ta foi? À ces mots, lui et ses compagnons se lèvent de table, se déclarent hautement chrétiens, accusent l'empereur de les avoir trompés, et demandent une nouvelle épreuve pour confesser leur foi. Un autre exemple beaucoup plus récent. Dans une grande entreprise, un ouvrier musulman qui s'occupe de ramasser les poubelles aborde en toute simplicité un employé catholique. Vous au moins priez avant et après le repas. Mais les autres, ils mangent, je cite, comme des chiens. Enfin, chers fidèles, interrogeons-nous, pourquoi devons-nous faire le signe de la croix? Déjà à partir de ce qu'on vient de lire, on a plusieurs raisons pour le faire. Mais précisons que ce signe, s'il est bien fait, il aura un double avantage. Premièrement, ce sera comme une arme à la fois offensive et défensive, qui chassera les tentations et qui écartera les périls de péché. Et deuxième avantage, par lui, par ce signe, nous pourrons vaincre le respect humain. Voici comment Justine, une jeune vierge chrétienne, savait manier cette arme. Noble, riche et surtout très belle, elle inspire, sans le vouloir, une violente passion à Acladius, un jeune païen. Il met tout en œuvre pour arriver à ses fins, offres, promesses, prières, mais sans effet. Acladius a alors recours à Cyprien, qui est Cyprien, un magicien. Tous les deux bientôt partagent la même passion. Les démons les plus violents viennent à leur secours et tentent Justine. Mais elle, se voyant si attaquée, elle redouble de prières et de mortifications. Et au plus fort du combat, elle fait le signe de la croix. Et alors, les démons prennent la fuite. Justine sauve sa vertu, mais encore, elle convertit le magicien qui devient un martyr. Mais cette sorte d'attaque du démon est relativement rare. Les attaques les plus fréquentes sont celles intérieures. Or, le signe de la croix dissipe les unes et les autres. C'est l'exorcisme le plus puissant que chacun, prêtre, laïc, peut faire. Le deuxième avantage du signe de la croix est qu'étant un acte extérieur de la foi, il triomphe du respect humain. En 1924, en France, ça fait 100 ans, le Sénat se constitue en haute cour pour juger un procès politique. Un poète breton, Théodore Botrel, est cité comme témoin. Quand vient son tour de comparaître, le président l'invite à prêter serment. Théodore cherche des yeux le crucifix. Ne l'apercevant nulle part, il dit « Je suis chrétien, je suis donc un crucifix vivant. » Alors il fait un grand signe de croix et ajoute « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je jure de dire la vérité. » Quelques sénateurs s'évanouissent presque. Armons-nous, chers fidèles, donc, souvent du signe de la croix, surtout au début et à la fin de nos principales actions. En pensant qu'un signe de la croix de plus dans le monde, c'est Satan en moins. Cet ennemi a un double comportement en face de la croix. Horreur et crainte à la vue de la croix et joie. Joie à l'absence de ce signe. Et nous savons maintenant comment l'effrayer et l'attrister efficacement. Que Notre-Dame nous y aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.